chères auditrices, chers amis, bonjour. Nous sommes en septembre et je vais dédier cette émission à Jean Rénal le prêtre, parti en septembre, et à Dominique Paoli, parti en septembre. Au ciel, bien sûr. J'ai la chance aujourd'hui de m'offrir et de vous offrir un entretien, oui, un autre entretien, avec Bertrand Vergely, ce grand philosophe que je n'ai plus à vous présenter, car vous le connaissez et êtes réjoui de sa présence, je le sais. Je vous remercie aussi d'avoir dit maintes fois que notre duo était magnifique et vous avez raison, il l'est. Car si nous n'avons pas le même caractère, nous avons cet esprit qui nous fait marcher sur la même strate. Bertrand Vergely a une culture immense et la philosophie est incarnée en lui. Mais ce que j'admire et ce qui me trouble et ce qui m'enchante au sens fort du mot, c'est non seulement son art de jongler avec les phrases et les mots, mais son pouvoir de faire surgir de lui des pensées lumineuses et inédites. Nous avions déjà parlé de son livre intitulé « Le silence de Dieu » qui fut édité aux presses de la Renaissance et qui est réédité dans « Point Vivre ». Ce livre est si riche qu'il fallait en parler. Mais figurez-vous que je l'ai relu. Et après l'avoir relu, je l'ai encore relu. Et je me suis dit qu'un seul entretien, et même deux, ne pouvait suffire pour en extraire tant de lumière. Alors, nous revoici, Bertrand et moi, devant vous. Cher Bertrand Vergely, cher Bertrand, bonjour.
Bonjour, chère Isabelle.
Ma joie de vous retrouver est celle de chaque rencontre. Oui, nous allons parler du silence de Dieu devant le malheur de l'humanité, et je crois que ce thème est bien adapté, hélas, à l'actualité. Après le Covid qui a changé pendant longtemps nos vies, nous voici confrontés à un autre fléau, la canicule, et ses feux dévastateurs qui éclatent partout dans le monde. Et bien sûr, nous gardons les tourments constants des hommes, la maladie, la souffrance, la mort, et j'en passe. On attend un miracle, une intervention divine, c'est le grand silence. On pourrait se croire abandonné. On pourrait même, du fond du désespoir parfois, rejoindre les athées. Bien sûr, quand on aime Dieu, je ne dis pas quand on croit en lui. Cela ne suffirait pas. Je dis quand on aime Dieu, notre confiance reste absolue. Mais là, c'est là, Bertrand, que votre livre est puissant. Il ne craint pas d'aborder tous les malheurs du monde et de s'affronter à ce mystère majeur, le silence de Dieu. Bertrand Vergely, cher Bertrand, commençons l'entretien. C'est vivre, écrivez-vous, qui est la réponse au mal. Pouvez-vous en dire plus?
Vous dites c'est quoi?
C'est vivre.
C'est vivre.
Vivre, écrivez-vous, qui est la réponse au mal.
Oui. Je crois que c'est une pensée que l'on trouve chez Jaspers et qui m'a beaucoup inspiré. À savoir que face au néant, c'est l'être qui surmonte le néant. Et qu'est-ce qui caractérise l'être? L'être n'en finit pas d'être parce qu'il est porté par l'amour de l'être pour l'être. Et lorsque l'on vit malgré tout et envers et contre tout, on est porté par l'amour de la vie qui reflète l'amour infini du vivant absolu pour lui-même, qui s'incarne à l'intérieur de la vie. Et c'est ce qui fait qu'on est porté par la vie même. C'est-à-dire que vis-à-vis du mal, vous avez deux attitudes possibles. Vous avez l'attitude de celui qui cherche des explications. Et donc, il veut rationaliser le mal et il veut trouver une raison pour laquelle il souffre, ou le monde souffre. Et puis, vous avez une deuxième attitude qui fait mieux que ça, qui consiste non pas à donner de bonnes raisons de souffrir, mais à vivre la raison intrinsèque de la vie qui traverse tout envers et contre tout. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de très important. Dieu ne supprime pas le mal, il nous donne la force de le traverser. Et c'est ce qui donne le mystère de ce que nous vivons. On a l'impression qu'il ne fait rien par rapport à la souffrance qui est la nôtre, il fait mieux que ce que l'on croit faire, il nous donne la force énorme. La preuve, regardez, l'humanité, malgré toutes ses souffrances et toutes ses épreuves, l'humanité a une force extraordinaire qui lui permet de tout traverser. Ça me fait penser à quelque chose qui est intéressant dans l'iconographie orthodoxe et orientale. On voit les saints avec les démons sous les pieds. Ça veut dire que les démons ne sont pas exterminés, ils sont terrassés et ils sont assagis. Et je crois que c'est ce grand mystère que nous vivons à travers les épreuves que nous endurons.
Oui, ce que vous dites est très fort. Et c'est vraiment une lumière, hein, pour le monde, ce que vous êtes en train de dire. Je vous rejoins complètement. Mais c'est dit avec une puissance et une clarté.
Je vais tout de suite au fait, nous allons revenir dans le détail, parce que bien évidemment, j'ai conscience que ce que je dis, il faut pouvoir l'accepter. Quand on a de grandes souffrances, bien, très souvent, on pourra dire qu'on n'est pas satisfait par la réponse que je donne. Mais néanmoins, nous verrons sa pertinence.
C'est une lumière.
Merci de le dire.
Mais oui, non, mais ce livre, vous savez, ce n'est pas notre dernier entretien pour ce livre. Hein.
Oui.
Parce qu'il est vraiment très, très important pour la vie.
C'est ce qu'on m'a dit.
Ah, mais voyez.
Et je vous remercie parce que vous confirmez ici quelque chose qui m'a été dit et à laquelle je ne pensais pas. On m'a dit beaucoup de bien et moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de si bien que ça ou d'exceptionnel, mais non. On m'a dit que beaucoup de personnes ont été, comme vous, nourries, inspirées par mes modestes réflexions.
Oui, oui, mais même quand je n'étais pas inspiré, je veux dire, bon, personnellement, je vous rejoins tout le temps. Donc j'avais déjà certaines pensées comme vous, mais qui ne s'exprimaient pas de la même manière. Mais je trouve tellement fort ce livre, tellement puissant, tellement beau. Il ne faut pas le lire qu'une fois. Puis une fois, vous vous rappelez, j'étais enthousiaste. Je vous ai dit, c'est un livre magnifique. Mais alors, quand on le relit une deuxième fois, on se dit c'est un livre à lire plusieurs fois, comme je fais avec certains livres de Thérèse de Lisieux, dans un autre genre. Hein.
Oui, oui.
Je ne compare pas à vous.
Non.
Bon, non, elle est philosophe, mais elle n'est pas un grand philosophe. Bon, mais elle est philosophe. Elle m'a beaucoup apporté.
Bon. Docteur de l'Église.
Oui, mais ça, pour moi, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a des docteurs de l'Église qui ne m'ont pas apporté grand-chose. Vous voyez,
bon,
elle, j'ai une passion pour elle.
Oui.
Voilà. Mais pour en revenir à vous, vous voyez, vous me dites bon. Hein, quand... Je veux dire, pour en revenir à vous, c'est absolument magnifique.
Merci.
Mais
merci.
C'est un livre pas à lire, pas à relire. Hein.
Oui, oui.
C'est relire et relire. Et ce livre est tellement riche qu'on ne va pas le laisser tomber comme ça, vous et moi, sur les, si vous le voulez bien. Hein. Parce que là, je suis un peu...
Écoutez, au contraire, vous retrouvez un bonheur. Et c'est vrai que le duo que nous faisons est parfaitement original.
Merci.
Et savoureux en ce qui me concerne. Je pense que en ce qui vous concerne également, et nos auditeurs aussi.
Merci infiniment, cher Bertrand. Alors, vous continuez le cri d'Ivan Karamazov, celui de Dostoïevski, celui de Camus.
Dostoïevski, oui.
Celui de Camus. Oui. Leur étonnement mystique, j'ouvre les guillemets. Si Dieu existe, comment peut-il tolérer la souffrance des enfants, ainsi que celle des innocents,
oui.
Ferme les guillemets. Vous ne reculez pas devant cette question qui hante les hommes depuis toujours. Vous l'affrontez avec une intelligence et une force incroyables. Quand avez-vous eu l'idée, pourquoi, de faire ce livre si fort, si nécessaire, si brillant ?
Ben, écoutez, je pense que la question du mal est une question fondamentale qui se pose pour l'humanité et dans la tradition chrétienne, et dans laquelle, effectivement, on a affaire à une désobjection majeure contre Dieu. Si Dieu existe, comment est-ce qu'il peut tolérer le mal? Et donc, je pense qu'il fallait répondre à cette interpellation. Même si nous le verrons, souvent la question est mal posée et les réponses qui sont données sont mal exposées également. Mais néanmoins, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé à tous de nous retrouver dans ce qu'on appelle la mouise et d'avoir un sentiment de solitude en ayant le sentiment, l'impression que dans l'infini, personne ne nous répond. Et vous savez, il y avait cette phrase qui était dite, dans l'espace, ce n'est pas la peine de crier, il n'y a personne pour vous répondre. Et je pense que c'est une vraie interpellation qui est posée. Et je crois qu'il faut s'affronter à cette question. Pourquoi ? Parce que aussi, tout le désespoir et toute la révolte et tout le nihilisme de notre époque repose sur cette question du mal en disant, tu vois, le mal existe, donc Dieu n'existe pas. Il ne peut pas être bon et il n'est pas tout puissant et il n'existe pas comme on pense qu'il existe. Bien, je pense qu'il faut reprendre ici cette interrogation et répondre point par point. Alors, personnellement, je pense que l'erreur que l'on a, c'est de répondre trop vite. Et je pense qu'il est important de prendre le temps de répondre. C'est-à-dire, quelqu'un étant confronté à une épreuve, il est dans la souffrance et il a l'impression d'être dans l'abîme, abandonné de tous. La première chose à faire, c'est pas de parler pour justifier Dieu, mais c'est d'écouter la personne en tant que telle. Et oui, d'écouter le cri qu'il lance. Vous voyez ?
Oui, je vois très bien, c'est la seule solution.
Bon, est-ce que les gens demandent vraiment une explication ? Les gens ne demandent pas une explication, ils demandent une énergie pour pouvoir traverser l'épreuve. Et parfois, certaines paroles donnent de l'énergie.
C'est beau ce que vous dites, c'est vrai.
Je pense donc, vous voyez, souvent je me dis, qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un arrive et dit, je vais me suicider, je suis désespéré. Je dis, la première chose à faire, tu lui payes une bière et tu l'écoutes.
Voilà. Ouais, non, c'est formidable. Non, mais voilà. C'est vrai.
Et d'abord, bon, déjà, les gens se sentent écoutés. Ensuite, on va reprendre point par point l'expérience que la personne traverse. Et vous apercevez qu'il y a quelque chose de magnifique dans la tradition chrétienne, c'est la vision trinitaire. La vision trinitaire nous invite à respecter les niveaux de réalité qui sont des niveaux matériels, des niveaux personnels et des niveaux transcendants. Ne pas partir tout de suite dans des grandes explications métaphysiques et théologiques, mais commencer d'abord par voir ce qu'on peut faire matériellement pour quelqu'un qui est confronté à une épreuve. Et on s'aperçoit que très souvent, il y a des tas de choses qu'on peut faire matériellement et qui n'ont pas été faites. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la relation humaine. Il en va des hommes comme il en va de la matérialité. Il y a aussi dans le malheur des hommes des tas de choses qui auraient pu se faire et qui n'ont pas été faites. Et nous apercevons une chose, c'est que très souvent, sur le plan de la pratique, ce qui manque, c'est un manque de pragmatisme et de rationalité. Ce qui manque dans la relation humaine, c'est qu'on ne se parle pas et qu'on se met dans des situations épouvantables parce qu'on n'a pas pris le temps de se parler. Et donc, il y a une chose essentielle à faire au niveau politique international, se voir, se parler. Et bien des choses sont surmontées dès qu'on se rencontre.
Bon, c'est le pouvoir de l'humanité que vous avez mis en avant.
Voilà. Ensuite, vous avez affaire au mystère de la vie, qui est le mystère transcendant de la vie. Et là, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce que fait le mystère de la vie par rapport à ma situation ? Qu'est-ce que fait la transcendance ? Qu'est-ce que fait Dieu ? Alors là, il y a deux choses qui, si je disais, il y a deux choses qui apparaissent. La première chose, c'est de dire, ne crois pas que la vie ne fait rien, mais elle agit d'une manière qui n'est pas commune et qui ne correspond pas à notre habitude d'agir. Et là, je crois qu'il y a deux choses importantes. Premier point, ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on fait quelque chose, et ce n'est pas parce qu'on ne fait rien qu'on ne fait rien. Et donc, je pense qu'à un moment, il est important de dire « attention ». Dieu ne fait rien, mais ce qu'il fait, ça n'est pas rien. Donc ça, si vous voulez, Ce qui me conforte dans cette attitude, c'est tout simplement la réflexion de Dostoïevski sur la révolution et sur ceux qui ont voulu changer le monde pour améliorer la condition humaine. Il est mieux valu parfois qu'ils ne fassent rien que ce qu'ils font, qu'ils fassent ce qu'ils font. Vous voyez ?
Oui, oui,
c'est-à-dire, il faut faire attention à ce qu'on appelle la pulsion terroriste. Qu'est-ce qui anime le terrorisme ? Que l'on voit également dans tous les mouvements ultra-révolutionnaire, c'est la volonté de changer radicalement les choses par un grand coup qui va provoquer une sorte de sursaut magique. C'est le phénomène de l'attentat. On va faire un attentat et puis, magiquement, le monde va se retourner et il va y avoir une prise de conscience. Donc, il faut faire attention ici à ce qui se passe, c'est-à-dire quand on est confronté au mal, il y a la volonté immédiate de répondre au mal par un mal encore plus grand pour mettre fin définitivement au mal.
Et nous vous avez montré le danger magnifiquement hein, dans le livre.
Voilà. Et donc là, moi j'ai vécu au milieu d'un monde qui était, qui avait beaucoup de générosité, mais cette générosité finissait par soutenir des régimes politiques totalitaires indéfendables qui transformaient le monde en un bagne géant au nom de la volonté de transformer une fois pour toutes l'humanité. Et donc nous apercevons que, premier point, bien quelque part, Dieu ne fait rien. C'est-à-dire, il ne vient pas avec l'armée des anges supprimer une fois pour toutes le mal.
Non.
Voilà. Ou alors...
On peut s'en étonner.
Ou alors... À ce moment-là, si imaginons que Dieu fasse cela, eh bien, ce serait, il transformerait une humanité en une humanité de moutons, voyez, où le mal serait supprimé, mais il faut voir dans quelles conditions. Nous apercevons quand même, ici, il y avait un film de Steven Spielberg qui était intéressant, qui s'appelait Minority Report, dans lequel il avait, c'est le grand fantasme de l'intelligence artificielle de demain, créer une immense intelligence qui serait capable de détecter les mauvaises pensées des hommes pour pouvoir faire intervenir des brigades qui empêcheraient les individus de commettre une mauvaise action. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On transforme le monde en un bagne géant, voyez ? Au nom de la suppression du mal. Et donc, nous apercevons qu'a priori, on dit, oui, Dieu n'a rien fait, mais heureusement qu'il n'a rien fait. Heureusement qu'il n'a pas mis en place un bagne et un régime totalitaire grâce à l'armée des anges. Autrement, eh bien, ce qui se passerait serait pire que le mal qui existe. Vous comprenez ?
Et ça, ouais, c'est enfin, je ne comprends pas vraiment.
Ben, ce que je veux dire, le mal et la souffrance sont quelque chose de terrible.
Oui, si les enlever, je serais contente.
Mais la manière dont on les a enlevés est parfois encore pire que celle qui existe. Mm. Vous voyez ? Bon. Puis deuxièmement, il faut quand même apercevoir les envoyés célestes qui agissent dans l'invisible jour et nuit pour pouvoir remettre le monde à l'endroit. C'est-à-dire, dans le monde aujourd'hui, vous écoutez un bulletin d'actualité et vous voyez toutes les horreurs qui se passent, toutes les choses terribles. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez les incendies. Ce qui caractérise,
le bien qui surgit.
Ce qui caractérise les incendies, c'est un mouvement de solidarité, mais bouleversant.
Sublime.
Et dans lesquels il y a eu une compréhension, une solidarité humaine étonnante.
Je suis de votre avis, Bertrand, hein? Quand le mal arrive, le bien resplendit.
Et ça a été tout le temps
toujours,
dit.
Toujours, c'est ça.
Et nous apercevons, on pourrait donner 10 exemples. Vous prenez par exemple, lors des attentats à l'hypercachère, ben vous avez l'un des employés qui a sauvé 20 personnes dans une chambre froide. Lorsque vous avez eu un attentat à Londres, il y avait un SDF qui a sauvé 5 personnes sur un pont. Vous apercevez qu'en permanence, Dieu envoie des bienfaiteurs invisibles, des hommes et des femmes admirables. Et tous
c'est ce que j'appelle les des anges invisibles sur la
Terre.
Moi,
ce que j'appelle, je les appelle les invisibles également.
Oui, moi, les anges invisibles. Oui.
Les invisibles qui agissent nuit et jour en permanence pour réparer l'humanité.
Vous avez raison. Hein?
Et vous apercevez que nous ne sommes pas abandonnés du tout.
Ah non, bien sûr.
C'est-à-dire que, bien sûr, on aimerait que le méchant ne soit pas méchant, mais essayer... En disant, mais pourquoi ne pas le tuer tout de suite et ne pas envoyer des anges tout de suite pour le tuer ?
C'est vrai. Hein?
Voilà. Et là, nous apercevons qu'à un moment, c'est la mauvaise bonne idée, vous voyez ? C'est-à-dire de créer un monde avec la dictature du bien et l'écrasement du mal. Et nous apercevons que ce monde qui serait la dictature du bien sera le mal sur la terre, tel que le pire des maux qui existe. D'autant plus que... On ne s'apercevrait plus du mal que l'on fait parce qu'on pense faire du bien en faisant du mal au mal.
Oui, ah, ça c'était formidable. Hein. Tout ce chapitre, vous jonglez avec les idées, mais ça me plaît la manière dont vous jonglez. Comprenez ?
J'aimais à un moment reprendre la discussion et de dire, mais écoutez, on va discuter point par point et on va voir si toutes les objections que vous avancez sont valables. Et quelque part, on a envie de dire, ben, à la fin, vous risquez de demander pardon d'avoir posé la question que vous avez posée et d'être dans la révolte ou le désespoir.
Mais vous posez beaucoup de questions qui font avancer. Vous n'avez pas l'orgueil du théologien que je déteste. Je veux dire, qui vous impose des choses qui sont fausses, qui sont inventées. Vous ne faites pas comme ça, hein ?
Alors,
il
y a quelque chose que je ne supporte pas dans le christianisme et chez certains théologiens, c'est le dolorisme chrétien
qui nous explique
que Dieu nous envoie le mal pour notre bien.
Oui,
et qu'on fait de Dieu le père du mal.
Oui, mais enfin, théologiens débiles.
Vous avez toute une tradition qui nous envoie, y compris ça commence par saint Augustin.
Oui, il a une théorie pour ça. Je sais que je l'aime pour d'autres choses.
Mais il est génial. Mais dès qu'il se met à faire des politiques et qu'il veut à un moment répondre à l'angoisse de ses ouailles, nous apercevons qu'à un moment, il dérape dans la pensée. Vous voyez, vous avez quand même ce texte extraordinaire d'Augustin.
Il a dérapé aussi dans l'action. Hein?
Disant que saint Augustin explique qu'il faut un équilibre dans les comptes et qu'à un moment, si les innocents souffrent, c'est parce qu'ils souffrent la souffrance que les fautifs n'ont pas souffert.
Oui, ils le payent à leur place.
Et donc, ils le payent à leur place.
Ouais,
et donc, ce sont des saintes souffrances, c'est un saint sacrifice. Et ça, si vous voulez, on finit par faire de Dieu le père du mal et le père de la souffrance. Et nous apercevons que ce raisonnement, il existe avant le christianisme, avec le christianisme et au-delà du christianisme.
Bien sûr, c'est pas le Christ.
C'est-à-dire, c'est pas simplement un raisonnement chrétien, c'est un raisonnement mental pour, quelque part, se consoler et avoir de bonnes raisons de souffrir. Et donc, une bonne raison de souffrir, c'est de faire de Dieu le père du mal, et soi-même, bien évidemment, on est coupable. C'est-à-dire que si on souffre, c'est qu'on le mérite. Je me souviens de quelqu'un qui disait, voilà, je suis passé dans une rue où il y a eu un attentat et j'ai été envoyé à l'hôpital à cause des éclats de la bombe, mais il avait trompé sa femme et il considérait qu'il était puni pour l'adultère qu'il avait fait. Et donc, à un moment, c'était une punition du ciel. Et pourtant, il n'était pas particulièrement chrétien.
Non, mais il y a des gens athées qui parlent comme ça. Hein.
Voilà.
Qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour avoir cette tourmente ? Beaucoup de personnes parlent comme ça.
Et finalement, je le souffre, je le mérite. Et dans la question du mérite, c'est de se dire, si je souffre ici, c'est que je souffrirai moins là-bas.
Ah ouais, ça c'est vrai
et
aussi.
Et là-haut.
Hein. Ah, c'est vrai aussi.
Et il y a cette idée de compensation. Hein.
Oui, mais quand on parle de saint Augustin et d'autres, il n'y a aucun saint qui n'ait pas parlé. Ils parlent tous à partir de leur personne et de leur personnalité. Ils inventent.
Et ils inventent pour sauver l'Église, c'est-à-dire que derrière, il y a l'institution, il y a le pouvoir politique, et les communistes disaient « le parti n'a jamais tort, le parti a toujours raison, vous avez un réflexe d'Église qui est un réflexe d'homme de parti, l'Église a toujours raison, elle a réponse à tout ».
Oui, mais c'est ça l'horreur.
Et là, nous apercevons même des grands théologiens et des pères de l'Église ont été là-dedans. Vous voyez ? Oui. Et alors après, on vous sort cette autre invention chrétienne, c'est la tolérance. Dieu tolère le mal, vous voyez ?
Oui, non, mais c'est stupide.
Alors, mais... alors qu'il est montré une chose qui est dite en priorité dans les évangiles, c'est qu'on explique qu'à le mal, pas le mal, on envoie le salut. C'est-à-dire, vous trouvez dans les évangiles, vous ne trouverez aucune explication et justification
non, c'est
du mal.
Vrai, c'est vrai.
Et vous verrez qu'une chose qui est envoyée aux
c'est
hommes,
vrai.
C'est le moyen de trouver le salut.
Mais bien sûr.
Et vous avez aussi, on pourra y revenir, les tentations du Christ au désert, dont nous avons affaire à une réponse magistrale qui est donnée à la question du mal. Mais là,
non,
on y reviendra.
Oui, non, mais vous savez, est-ce que moi, la théologie, je dirais...
Ben, ça dépend. Mais la vraie théologie est géniale.
On n'a pas la science de Dieu.
Non, mais la vraie théologie est géniale. La petite théologie est souvent consternante et navrante. Il y a la grande théologie et il y a la petite théologie.
Oui, dans la grande théologie, il n'y a pas beaucoup de choses de vraies. Hein. Je veux dire que c'est toute, la plupart des choses sont inventées quand même.
Exactement. Il y a une chose qui n'est pas inventée, c'est l'expérience que vous en avez quand vous parlez de la relation que vous avez avec Dieu et de ce que vous avez senti dans votre corps.
Mais là, c'est personnel.
Et là, c'est un titre personnel.
Voilà, on n'en fait pas un dogme.
Vous ne commencez pas à faire des théories générales sur le mal et les dieux. N'oublions pas les désastres qu'a fait la volonté de Dieu.
Oh, mais oui,
Souvenez-vous, le tremblement de terre de Lisbonne.
Oui.
On expliquait que Dieu était en colère contre les Juifs et il avait envoyé
c'est
le tremblement
horrible.
De terre pour la punition
des Juifs.
Et je vous signale que lors du raz-de-marée qui a eu lieu à Haïti, des pasteurs protestants sont venus expliquer que s'il y avait 220 000 morts, c'est à cause du péché des Haïtiens. Et ensuite, quand il y a eu le même tsunami qui a eu lieu en Thaïlande, c'était à cause du tourisme sexuel qui avait lieu dans la, dans la
cinglés,
région.
Hein.
Ah non, mais on continue, vous comprenez
donc, ils sont cinglés.
Et voilà. Et je vous signale que sur le Covid, vous avez y compris un igomène de monastère orthodoxe qui a expliqué que Dieu avait envoyé le Covid pour que les hommes se convertissent. Bravo.
Oui.
Félicitations.
Non, mais moi, je pense qu'il frise la maladie mentale, vous voyez.
Non, je pense que c'est la bêtise des hommes d'appareil qui veulent absolument sauver l'Église et l'Église a toujours raison.
Oui.
Le parti a toujours raison. On n'a jamais tort. On a une explication
Augustin pour tout. Augustin est un génie. Augustin savait aimer, c'était un passionné. Il a adoré son fils qui est mort à 15 ans. Eh bien, regardez qu'il forçait, les gens.
Il y a deux choses. Il y a Augustin qui se convertit, qui est prodigieux. Et puis, il y a l'homme politique.
Bon, j'étais en train de vous dire que saint Augustin, qui était merveilleux...
Oui.
Qui obligeait les gens. Oui, il est merveilleux, mais il était merveilleux parce que c'était du temps de la terre qui faisait ça.
Oui, oui.
Alors, qui était merveilleux, était en train de forcer les gens de rentrer dans l'église. Il leur disait, forcez-les de par tous les moyens. Prenez-les, battez-les, voilà.
Mais vous avez le psaume 147 où il parle de la persécution par amour.
Oui.
Et qu'il ne faut pas hésiter à donner des coups à ceux... à ceux qui apprennent, aux apprentis,
bon,
pour les réformer. Mais c'est une partie de... ce sont des gens qui sont inexpérimentés du point de vue politique.
Peut-être, mais il n'y a pas que la politique. Je veux dire, par rapport à Dieu, c'est horrible de faire ça.
Mais c'est du zèle. C'est-à-dire,
oui,
vous avez des gens
horrible.
Qui ont une magnifique intériorité, et puis tout d'un coup, ils vont faire de la politique, et ils vont le faire sans...
Mais Augustin, c'est un cas particulier. Parce que lui, je veux dire, il a été vraiment marqué par sa jeunesse. Il a été... C'est un cas particulier, lui. Hein.
Oui, oui, non, mais il a été marqué par le manichéisme qui l'a influencé et dans lequel il y a cette vision manichéenne du tout
voilà,
ou rien.
Voilà, exactement, même s'il s'en défendait. Mais enfin, il a fait de toutes les couleurs. Il n'y a rien de pire qu'un converti.
Mais de toute façon, ma chère, la vision divine est une affaire de longue haleine et il faut beaucoup de temps pour comprendre et voir où nous allons. Nous allons vers quelque chose de tellement extraordinaire que nous n'avons pas encore les moyens de comprendre ce qui se passe.
On ne comprendra pas tant qu'on est sur Terre.
Petit à petit, on a des éclairages, mais à condition d'accepter que tout va bien plus loin que ce qu'on imagine.
Mais c'est pour ça que la théologie, pour moi, c'est rien.
Très bien.
Ouais, je vous le dis, hein.
Oui, oui.
Voilà, c'est une invention d'intellectuel. Hein. On ne peut pas être bête et faire de la théologie. Et bon, c'est une invention d'intellectuel, voilà, c'est tout.
Alors, ça dépend laquelle. Moi, je crois à une théologie mystique et je crois en mais la théologie
alors,
rationnelle.
Alors, il y a des lumières dedans.
Oui, oui.
Mais il n'y a pas la vérité. La vérité, il ne nous l'a pas donné, le Christ. Il est venu, il ne l'a pas donné.
De toute façon, Saint-Simon le théologien disait « Tout homme qui prie est théologien ». Et vous êtes inspiré, enseigné par le ciel. Mais ne commencez pas.
Je suis d'accord avec vous, mais ça s'appelle pas la théologie.
Ne commencez pas à faire comme Thomas d'Aquin une somme où vous allez donner la réponse à tout.
Non, mais il m'intéresse pas, hein, Thomas d'Aquin.
Mais malgré son génie, une réponse à tout.
Ouais, mais c'est pas un génie qui m'intéresse.
Mais oui.
J'aime mieux les mystiques, parce que là, vous êtes en train de parler de mystiques.
Ah, moi, toujours.
Ben, moi aussi.
Bien sûr.
Ce sont ceux que j'aime.
Ben, c'est des hommes d'expérience.
Voilà.
Et oui.
Alors, cher Bertrand, on continue, hein. Oui, vous avez montré, vous m'en avez parlé là, vous avez montré comment on passe de la résignation à la révolte. Car un jour, le vent a tourné, vous en avez un peu parlé, vous voulez continuer ou on passe à un autre?
Continuons, parlons de la résignation et de la révolte.
D'accord.
Parce que ça, c'est très important.
Alors, allez-y.
Ben, si vous voulez, nous apercevons qu'on est enfermé dans des couples de contraires quand on a affaire à la question du mal. Et nous apercevons qu'il y a deux attitudes qui ont été présentes par le passé, mais qui sont présentes encore aujourd'hui. La première est quelque chose qui a toujours permis de supporter la souffrance, c'est le fatalisme plus que la résignation. Et le fatalisme consiste à dire que le mal fait partie de la nature des choses. Et donc, ça permet d'accepter l'inacceptable. Et puis, le deuxième point qui apparaît opposé, c'est la révolte. Veut dire aujourd'hui, il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de fatalité, nous sommes révoltés contre quoi? Contre Dieu qui a créé le mal. Et donc, quelque part, on se soumet à la fatalité, parfois en Dieu, on se révolte contre Dieu par colère contre Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? On n'est jamais dans l'expérience. C'est-à-dire qu'on est dans des moyens de supporter la douleur. La première, c'est de la fatalité qui est une forme de colère et qui est une forme de révolte qui consiste à dire « Vous voyez, Isabelle, je vous l'avais dit, la vie est fondamentalement mauvaise. » Bien. Et ça, c'est une forme de colère derrière cette tristesse. Et puis, derrière la révolte, nous apercevons qu'il y a une forme de fatalisme. Je me souviens de quelqu'un qui disait « La révolution, ça ne sert à rien, mais il faut la faire. » Donc, il y a la colère, ça ne sert à rien, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? On est dans le théâtre à l'égard du mal. Vous comprenez?
Oui, très bien, c'était formidablement.
On est dans des postures théâtrales, on masque sa colère, on masque son fatalisme, tout le monde se masque, et personne, tout ça c'est du bavardage. Et ce qui est intéressant, c'est ceux qui ne bavardent pas sur la révolte ou sur le fatalisme, mais qui retroussent les manches et puis qui plongent les mains, eh bien, on pourrait dire, dans le cambouis pour pouvoir aider l'humanité. Et là, heureusement, il y a des tas de gens qui le font, vous voyez, et dans lesquels on n'est pas en train de se gargariser en essayant de trouver une pseudo-sagesse à travers le fatalisme ou à travers la révolte. Donc là, voilà, c'est ça qui me paraît important et c'est le moment où on dépasse. Et alors, c'est très intéressant parce qu'on voit finalement, c'est tout le problème de Camus. Le problème de Camus, c'était d'une part la révolte contre les théologiens qui essayent de trouver des bonnes raisons de souffrir à cause du péché originel et de la faute de l'homme. Et puis d'autre part, c'était les aventures insensées dans lesquelles l'humanité s'est précipitée par révolte contre les théologiens. Et il a cherché quelque chose qui pourrait dépasser cette opposition. Et donc, il a essayé de la trouver dans la révolte malgré tout, mais c'était une manière de parler de l'action. Et puis, il y avait aussi quelque chose qui apparaît chez lui, c'est la poésie. Et c'est le sens cosmique de la vie. Ça, c'est autre chose, c'est magnifique.
Oui. Alors, vous avez écrit, « La religion qui cherche à innocenter Dieu a quelque chose d'accablant. » Vous avez tellement raison, hein. Et là encore, je vous laisse continuer, parce que vous exorcisez le mal que peut provoquer la religion, selon moi. C'est fort.
Oui, Ben, écoutez, je pense que politiquement, historiquement, lorsque l'Église est devenue un système politique et idéologique voulant avoir la réponse à tout, elle s'est affrontée à la question du mal et elle a essayé de justifier la question, de justifier le mal. Elle l'a justifié comment ? Une seule justification, le péché originel et la réparation par les souffrances de l'humanité du péché du premier homme. Bon, ça, et là, c'est absolument consternant, si vous voulez. Ça a été très bien répondu à la fois par Dostoïevski, mais ça a été très bien répondu par Camus. Ça veut dire que le nouveau-né qui n'a rien fait est coupable et autant coupable que l'assassin qui a commis de multiples crimes. Tout le monde est coupable. Souvenez-vous de cette parole de Bossuet disant « Il est né d'Adam, ça suffit ».
Non, mais c'est monstrueux, c'est ce que je disais.
Et vous voyez, et certains disaient, mais regardez ce nouveau-né comme il est méchant et quand il mord le téton du sein de sa mère. Vous voyez, donc c'était...
C'est pas Rousseau qui a dit.
Non, il y en a plusieurs qui ont vu la méchanceté humaine à travers cela. Oui. Et donc, si vous voulez, on est accablé par ce type d'argumentation. Alors, je pense que l'Église aujourd'hui a beaucoup évolué, quoique, pas vraiment. Il y a toute une partie de l'Église qui est encore très marquée par le péché, péché originel et le péché de toute l'humanité. Et donc, effectivement, c'est là où je dirais que ce besoin d'innocenter Dieu ne nous apprend rien sur l'innocence de Dieu.
Je vous rejoins, mais j'applaudis à tout rompre. Hein.
Et il nous apprend tout sur le pouvoir de l'Église et sur la volonté d'innocenter l'Église elle-même.
Exactement, c'est ça. Alors, vous avez parlé magnifiquement de l'homme qui doit être assisté et sauvé. Et vous écrivez, nous nous insurgeons contre un Dieu qui n'assiste pas sans comprendre qu'il sauve malgré les apparences. Bon, vous en avez parlé un peu tout à l'heure.
Oui.
Quand on montrait que le bien dominait, quand le mal est là.
Oui.
Vous n'avez rien à ajouter ? Parce que vous allez même jusqu'à dire que l'homme mérite mieux qu'une assistance. Il mérite le salut.
Oui.
C'est beau ce que vous dites. Alors parlez-moi de cette assistance. On en a un peu parlé, mais continuez. Écoutez, de ce salut.
Écoutez, moi, il y a des choses qui me bouleversent beaucoup. Ce sont les gens qui sont revenus des camps de la mort. Ce sont ceux qui ont traversé les épreuves terribles de la dernière guerre mondiale et ceux qui traversent les épreuves qu'il y a eu après dans d'autres pays avec d'autres conflits. Nous apercevons que il y a des êtres qui ont découvert une force en eux extraordinaire qui leur a permis de traverser les épreuves. Cette force, qui est-ce qui en parle ? Robert Anthelme en parle dans L'espèce humaine. Vous avez celui qui a écrit Le cœur conscient, son nom m'échappe, et qui a découvert en lui ce qu'il appelle l'individu fondamental. Et l'individu fondamental, c'est ce qu'a découvert Robert Anthelme, ce qu'a découvert ce grand psychanalyste, il disait, il y a quelque chose qui nous a permis de tenir, c'est de trouver la position juste entre la révolte et d'autre part l'abattement, et qui était de se tenir droit. Et cette droiture, c'est ce que les nazis voulaient exterminer. Et il y avait en nous un individu capable de résister. Eh bien, je pense que ça, c'est l'expérience divine que l'on peut avoir. C'est-à-dire le moment où, au cœur, dans des situations impossibles, on croit que Dieu n'existe pas, il y a une force intérieure qui apparaît. Et tout d'un coup, cette force intérieure donne de la force à tout le monde pour pouvoir se redresser.
Oh, vous voyez ? C'est vrai. Hein. Là, vous parlez en fait d'expérience aussi.
Et alors, vous voyez, je suis quand même très frappé par le film que je viens de voir, qui est La bataille de Gaulle. Et j'ai beaucoup aimé la droiture, la volonté qui apparaissait de gens qui ont dit non. Nous allons résister, nous allons nous tenir droit, nous allons...
C'est magnifique.
Absolument admirable.
Oui, c'est admirable.
Et je suis fils d'un déporté qui est rentré dans la résistance à 17 ans, qui a été condamné à mort, qui n'a pas été exécuté, et qui a traversé la guerre avec une droiture, une fermeté, une volonté, qui est exactement celle que j'ai trouvée dans le film.
Ah oui,
exactement
non.
celle que je trouve chez Robert Antelme, vous voyez. Et je trouve que là, il y a des êtres absolument remarquables. Alors, qu'est-ce qui nous est envoyé? Il nous est envoyé des êtres de lumière à travers la nuit pour pouvoir... Non seulement, c'est pas qu'ils ont éclairé le malheur, c'est qu'ils ont illuminé nos cœurs en nous donnant la force de traverser tout ça.
C'est beau
et
ce
ça,
que vous dites.
C'est magnifique. C'est magnifique.
Très beau ce que vous dites et c'est très vrai. Ah non, ça c'est vrai. Vous avez écrit aussi, je résume, hein,
oui.
qu'il y a des cas où ne pas devenir athée est pour ainsi dire inquiétant. Ça, cette ironie-là,
oui.
qui est une vérité, m'amusez.
Oui, eh bien écoutez, je pense que parfois, et c'est le chrétien qui vous parle, il y a un christianisme qui est tellement bête qu'il vaut mieux être athée que d'être dans ce christianisme complètement idiot.
Oui, en plus, l'athéisme fait moins de mal aux gens.
Ça dépend lequel. Parce qu'il y a un athéisme qui a été monstrueux.
Non, mais ça, je ne parle pas de celui-là.
Oui, oui.
Mais je veux dire, quand on tombe sur quelqu'un, une fois qu'il a dit « je ne crois pas en Dieu », il a tout dit. Hein.
Mais vous avez...
J'ai pas fini.
Pardon.
Il y a des chrétiens qui font beaucoup plus de mal avec ce que vous avez dit tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, il faut bien voir les circonstances dans lesquelles des personnes vous disent qu'ils sont athées, ils vous disent ce qu'ils ne supportent pas dans l'Église et dans les discours des théologiens, et j'ai envie de leur dire, le Dieu auquel vous ne croyez pas, je n'y crois pas non plus, voyez.
Très bien.
Et à votre place, je serais exactement comme vous, je n'y croirais pas. Mais, ensuite... Il y a il faut voir aussi tout le bien qu'ils ont fait. Alors il dit, je ne comprends pas. Vous avez des gens qui me disent, Monsieur Verlier, je ne comprends pas. Je suis complètement athée, mais je suis complètement d'accord avec vous. J'ai le sens de l'émerveillement. J'aimais beaucoup l'intériorité et tout. Ben je dis, écoutez, c'est que vous n'êtes pas aussi athée que vous le pensez. Vous n'êtes pas athée, vous êtes contre la bêtise. C'est tout
voilà,
à fait
c'est
différent.
C'est une bonne réponse que vous avez donnée.
Voilà.
Alors, vous avez parlé. C'est la première fois que je n'ai pas tapé à la machine certaines questions et
oui.
j'ai du mal à les relire. Alors, vous avez parlé en donnant maints exemples de l'inacceptable. Et ça, c'est vrai. Comme cette mère en Algérie dont les trois enfants ont été égorgés. Et pour vous accepter, l'inacceptable n'est pas acceptable. Ça, j'ai aimé aussi parce que vous avez également donné tellement d'exemples en jonglant toujours.
Et il y avait cette photo, mais... poignante de cette mère qui vient d'apprendre que ses trois enfants étaient dégorgés et elle porte toute la douleur du monde, vous
oui.
voyez. Et c'est absolument bouleversant, vous voyez. Et je crois surtout que c'est très important quand on parle du mal, de parler de l'inacceptable. Pourquoi? Parce que vous avez le mal et vous avez la manière de vivre le mal. Et donc, vous avez trois éléments dans l'inacceptable. Premièrement, des choses monstrueuses qui se sont faites, mais aussi, vous avez la réaction de l'esprit face à ces choses monstrueuses qui permet à un moment de montrer le salut à l'intérieur de la nuit. Parce que quand vous réfléchissez sur le mal, qu'est-ce qui caractérise le mal? Ce qui caractérise le mal, c'est souvent le discours du pervers qui explique que rien n'est mal. Et donc, tout est acceptable. Et ce qui est merveilleux, ce sont des gens qui se lèvent et qui disent « il y a de l'inacceptable ». Et par la même, non seulement il y a des choses monstrueuses, mais ce qui est monstrueux dans le monstrueux, c'est de dire que rien n'est monstrueux, que tout est acceptable, que tout est bien, tout est vrai, tout est beau. Ben, c'est pas vrai. Tout n'est pas beau, tout n'est pas bien, tout n'est pas vrai, tout n'est pas acceptable. Et là, je crois qu'on a affaire à des consciences magnifiques et dignes qui se relèvent et qui relèvent tout le monde.
Oui, et qui peut engendrer quand même une réponse parfois violente. Hein.
Non, qui entraîne les belles réponses qu'a construit
notre monde. Oui, les belles et les violentes aussi. Quelqu'un peut vous dire non, vous voyez, maintenant, on est tellement dans la tolérance stupide qu'on peut très bien vous dire non.
Mais je pense qu'aujourd'hui, notre monde s'est construit. Moi, j'ai grandi dans ce monde qui avait conscience quand même de ce qui était passé de terrible pendant la guerre et qui a construit quelque chose, malgré tout, qui se tient encore.
Vrai.
Je ne sais pas pour combien de temps,
c'est vrai.
Mais qui se tient encore.
Vous avez écrit « Face à la souffrance », ça m'a plu aussi, c'est être homme et non sage qui est sage. Face à la souffrance, c'est être homme et non
sage
qui est sage. Sage, oui. J'adore votre manière de parler.
Oui.
Mais vous jouez avec les mots pour dire une vérité.
Oui.
Bon, bah, je retrouve que chez vous, hein, quand je lis les philosophes, je trouve que chez vous ce style que j'aime.
Alors, vous savez pourquoi j'aime ça ? J'aime beaucoup le paradoxe.
Ben, c'est ça.
Et je crois que le paradoxe est lié à l'expérience que j'ai eue du Christ et du Mont Athos, dans lesquels j'ai vu que la vision des choses était une vision qui est toujours plus. Les choses sont plus que vivantes.
Mmh.
Donc, qu'est-ce qui est intéressant ? C'est la sagesse, c'est ce qui se passe quand on n'est pas sage, quand on est plus que sage. Et quand on est plus que sage, qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas simplement sage, on est homme. Et on est plus qu'homme, on est sage, on est plus que sage. On est homme, on est plus.
Écoutez, si c'est le Mont Athos qui vous inspire à ce point, vous avez raison d'y aller souvent. Hein.
Oui, oui. Et c'est ça que j'ai aimé chez Denis l'Aréopagite également.
Ah, oui.
Cet immense théologien formidable, orthodoxe mais qui a aussi beaucoup inspiré les latins, même si au départ, il les bousculait beaucoup par sa logique paradoxale. Il n'empêche, vous prenez la croix du Christ, la coïncidence des opposés, et vous apercevez qu'elle est au cœur de tout. C'est-à-dire, pour aller dans la résurrection, il faut aller dans la vie, dans la négation de la vie, pour aller vers le plus que vivant.
Mmh.
Et le plus que vivant, vous l'intégrez dans votre pensée. Mmh. Ça donne quoi dans la tradition de la pensée ? Ça donne le principe d'éminence, disant que les choses sont ce qu'elles sont parce qu'elles sont éminemment ce qu'elles sont. Et si vous pensez tous à partir de là, alors vous découvrez quelque chose, c'est que la véritable sagesse est plus que sage. Denis l'Aréopagite parlait du suressentiel. Il dit il y a l'essentiel et il y a le suressentiel. Et c'est dans le suressentiel qu'on trouve l'essentiel. C'est dans la sursagesse. Et qu'est-ce que c'est que la sursagesse ? Eh bien, tu arrêtes d'être sage. Et à un moment, on
n'est
pas en train de se gargariser avec la sagesse. Et on est sage, on est homme, et on est au-delà de la sagesse et de l'homme, qui est quoi ? Qui est à un moment l'inspiration qui vient d'en haut, qui vous est donnée. Vous comprenez ? Moi, je suis partisan de cette parole de Socrate qui disait « La sagesse ne vient pas des hommes, la sagesse nous est donnée par le ciel. » La sagesse, c'est génial. Donc, ne pensez pas que la sagesse n'est ni humaine, ni celle des sages, c'est autre chose. Et je crois, si vous voulez, que c'est là que le divin intervient sous la forme d'une inspiration, d'un souffle qui fait qu'à un moment, on va dire quelque chose ici, maintenant, qui va être bon pour nous et nous illuminer.
Vous êtes tellement génial que là, j'ai une tristesse qui me prend.
Oui.
Je regrette tant que Jean Reynald, mon frère, ne soit pas là.
Alors, on
parce
a une pensée
pour lui. Était brillant comme vous.
Oui.
Et j'aurais pris les notes quand il parlait comme vous.
Oui.
Et il aurait tellement été heureux de vous connaître sur Terre.
Bon, et enfin. Moi, j'aurais aimé connaître votre père.
Oui.
Parce que ça devait être quelqu'un d'extraordinaire.
Oui, enfin, bon, je parle de mon frère. Mon frère avait une valeur immense. Hein.
Ben oui, vous en parlez.
Ça n'a rien à voir. Vous auriez connu les deux.
Oui. Et vous savez, grâce à vous, vous nous les faites aimer. Et on sent qu'ils vivent en vous et à travers vous.
Ben, ils vivent au ciel, ils vivent comme nous, on est là. Je ne sais pas ce qu'ils font en ce moment, s'ils font du bateau, ou s'ils sont en train de dire... Je ne sais pas du tout ce qu'ils font, mais je sais qu'ils sont vivants.
Ben oui.
Donc c'est ça, vous savez, tous les soirs, j'ai ma coupe. Hein.
Ben écoutez, vous êtes formidable, vous êtes vivante, vous êtes dans la vie. Vous
oui, mais je veux dire, je suis éternelle,
frère,
comme vous.
Oui, ben, c'est ce que disait Spinoza. Nous expérimentons et nous sentons.
Moi, la mort, c'est un billet de train ou d'avion, ce que vous voulez. Mais c'est juste.
Oui, oui, moi, je ne sais pas du tout. Je crois qu'on n'imagine pas ce que peut être le passage.
Non, mais je ne cherche pas à l'imaginer. J'ai une confiance absolue dans le Christ.
Oui,
vous voyez, quand on m'a dit votre frère est mort, quand je suis revenu du Tarn, j'ai dit oui, oui. Alors, je l'ai vu mort. Il est mort. Je l'ai vu mort. Il n'est plus mort. Elle me regardait, les yeux qui lui sortaient de la tête.
Mais votre frère, il est dans votre cœur. Et il est quelque part encore plus vivant dans votre cœur que vivant.
Oui, bon, il a toujours été mon adoration.
Ben oui.
Mais il l'est, mais rien de changé. C'est juste que je ne peux plus lui téléphoner. Mais je lui parle.
Mais il vous parle, et vous avez un dialogue secret avec lui.
Oui, alors même plus que ça, mais ça je raconterai hors antenne.
D'accord.
C'est des signes où il me parle, la voix est dans la tête, mais je vous raconterai hors antenne.
Dans le cœur.
Faut pas dire... Non, pas dans le cœur, dans la tête, carrément.
Dans la tête, très bien.
Non, non, je crois aux signes. Mais j'en parle pas.
D'accord.
Parce que j'ai pas envie qu'on m'interne. Mais je crois aussi qu'il est réel. Si quelqu'un vous parle pour dire un truc, vous cherchez quelque chose et il vous le dit, on peut plus douter. Je n'ai pas le moyen de douter.
Oui, oui.
Je l'ai plus. Voilà. Alors, c'est malheureux, hein, parce que j'aimerais que tout le monde soit pareil. pour qu'ils soient quand même un peu plus heureux. Ah oui. Ah non, je suis catégorique. Hein.
Écoutez, chacun a son chemin.
Chacun a son chemin.
Et il faut laisser chacun découvrir les choses en temps et en heure.
C'est très vrai. Ou non, il y en a qui ne découvrent pas, il y en a qui n'ont pas la même puissance en eux pour capter.
Ah oui, tout à fait. Et parfois, j'en serais presque à dire, il faut peut-être plusieurs vies pour pouvoir découvrir la vérité.
Oui.
Attention, on est parti pour un long voyage.
Vous avez raison, mais je ne suis pas pour la réincarnation. Hein.
Non, mais c'est quand même très curieux. Vous voyez, il y a quelque chose, que l'Occident n'est pas pour la réincarnation, mais il est quand même pour le purgatoire.
Mais vous croyez que je crois au purgatoire, hein ?
Mais écoutez, moi ce que je crois, c'est au voyage.
Oui,
c'est-à-dire, je ne suis ni dans la réincarnation, ni dans le purgatoire. Je suis à l'immense voyage de la vie où nous sommes là pour apprendre et traverser une pluralité de mondes et de vies.
On continuera après.
Et on va continuer.
D'apprendre.
Et on n'arrêtera pas d'apprendre.
Non, au ciel,
car
non.
N'oubliez pas que vous avez une vocation divine, céleste, et qu'à un moment, nous sommes de la poussière d'étoiles à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous pouvons développer un cosmos à l'intérieur de nous-mêmes.
Alors, faites-moi penser à vous répondre. Hein.
Oui.
Alors, on laisse passer un bobino.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
C'est un autre pays, un autre monde, mais un autre pays. Les gens se font des images comme si on devait tous être éthérés. Voilà, le Christ est monté, vous savez bien qu'il est monté avec sa chair, son corps et tout. Mais c'est pour ça que je dis, c'est un ticket, un billet de train. On s'endort, on se réveille là-haut, comme quand on est né, on est sorti du ventre, on s'est réveillé dans... là.
Alors,
pour moi, c'est ça le ciel.
Moi, je vais vous dire deux choses qui expliquent le ciel pour moi. Il y a d'abord une parole de ma mère qui m'a beaucoup marqué. Et elle me disait souvent, tu n'imagines pas, il y a des choses qui viennent d'ailleurs. Et j'aime cette notion d'ailleurs, c'est que tout d'un coup, il y a le matériel, l'humain, et puis il y a quelque chose en plus qui relève d'autre chose. Et puis, deuxièmement, je sens le ciel dans mon cœur et quelque chose s'élève vers une existence de haute intensité. Et là, je suis dans le ciel et j'ai envie de dire, attention, là, non seulement ça vient d'ailleurs, mais c'est une vie de haute intensité qui vient d'ailleurs et qui m'inspire.
Je comprends.
Voilà.
Ah oui, je comprends.
Et le ciel, il y a des moments, le ciel parle à travers vous, il parle à travers des événements de la vie, et tout d'un coup, c'est le ciel qui parle.
Mais Bertrand, là, nous sommes sur la Terre, donc vous dites ce que vous ressentez.
Oui.
Et je le ressens aussi, et je vous donne raison. Mais moi, je vous parle après.
Après, c'est la même chose.
Mais
c'est qu'à un moment, cette vie de haute intensité ne fait que commencer ici.
Oui,
dans
mais
le
vous
monde.
Voyez comment. Vous voyez comment.
Ah, je
me vois
pas.
Comme je suis maintenant.
Vous êtes la même et pas la même.
Vous n'en savez rien.
Mais si, on le voit bien. On le sent, on le sait.
Non, on ne sait pas tout.
On ne sait pas tout.
On sait que le Christ est le Christ. On sait qu'il mange, qu'il boit. On sait qu'il vit, on sait que le ciel, pour moi, c'est la terre.
Et on sait ce qui se passe dans le cœur quand tout d'un coup, tout s'élève. Ça, c'est quelque chose de formidable.
Mais vous parlez que maintenant, tout ce que vous ressentez là, je le ressens aussi.
Oui.
Vous avez raison, le ciel entre sur la terre. Il nous envahit parfois.
Eh bien, continuez à vivre cette impression d'élévation et vous verrez tout de suite ce qu'il y a après.
Il n'y a pas que l'élévation. J'ai le droit de penser aussi à autre chose.
Mais vous avez tous les droits.
Pour moi, il n'y a pas que l'élévation. C'est la vie, je l'aime, la Terre.
Oui.
Pourquoi voulez-vous que je me dise que j'aurais plus la même vie ?
Non, mais c'est...
J'aurais la même vie.
C'est l'élévation au sens de la qualité d'existence.
Ah ben, il n'y aura plus de l'arbre.
C'est une qualité d'existence tout à fait extraordinaire. Mais qui va glorifier, valoriser l'existence qui se trouve ici, qui sera encore mieux.
Ah ben là, je vous rejoins.
Voilà.
Parce que je me méfie toujours.
Oui.
Je me méfie toujours. Qu'on me donne des choses théoriques.
Non, non.
Moi, je sais que je vivrai comme sur Terre. Comme
vous
sur
avez
Terre.
Raison.
Voilà.
Vous avez raison.
Comme sur Terre, moi. Hein.
Oui, oui.
J'en suis sûr. Le Christ peut tout. Hein, rien n'est impossible à Dieu.
Mais vous voyez...
Il peut tout. Il me fera du poisson grillé. Il me fera du poisson grillé.
Oui, mais il y a des moments où il parle en esprit, en vérité. Et quand il parle en esprit,
c'est
en vérité...
Parce qu'il a un être supérieur, il est divin. Et là, il ne peut pas s'empêcher.
Et là, il y a quelque chose... Mais ça dépend. Il est humain et divin.
Oui.
Et tout d'un coup, il y a quelque chose d'autre, d'ailleurs, qui parle à travers lui.
Mais je
et
suis
là,
d'accord.
Et là, c'est la vie de haute intensité.
Oui, celle que nous aurons après.
Et que nous commençons déjà à voir ici.
De temps en temps, pas tous.
De temps à autre et pas tous. Nous sommes d'accord.
Ben, on est d'accord.
Oui, oui.
Ah non, parce que moi, il ne faut pas me parler de choses ésotériques ou des gens qui disent « qu'est-ce qu'on fait après ?» Je ne crois pas au purgatoire, je ne crois rien du tout. Je ne crois qu'au Christ et à la vie éternelle.
Bien.
Et à la belle vie qu'on aura.
Ah oui.
Très belle vie. Mais sur tous les plans. Hein. Il y a plusieurs maisons dans la maison du Père.
De commencement en commencement par des commencements qui n'ont pas de fin.
Voilà.
Comme le dit Grégoire de Nice.
Oui, oui. Un jour, on en reparlera quand on sera là-haut.
Voilà.
Alors, bon. Alors, maintenant. Pardon. Ah, voilà, il dit que c'est pas mon lien. Alors, votre critique d'Épictète m'a beaucoup plu. Bien sûr, dans votre bouche, de grand croyant, elle est forte, étonnante et osée. Hein? Mais vous avez raison, vous avez lu le manuel. Épictète voulait consoler la veuve en lui disant de ne plus, que rien ne lui appartenait, ni pas, enfin bon, devant la mort, elle disait, Épictète dit, tu l'as rendu.
Oui.
Bon, et vous avez raison, vous dites, il est problématique d'entendre dire, ne dis jamais que tu es perdu, que tu l'es perdu, mais que tu l'as rendu. Et vous ajoutez, quel est le sage qui aura le courage d'aller dire à la mère algérienne d'où vient d'égorger ses enfants, on l'a dit tout à l'heure, hein, qu'elle ne fait que rendre à l'univers ce que la Providence lui a donné, etc. etc. Vous aimez Épictète ? Il vous a apporté quelque chose, Épictète ?
Énormément. J'aime énormément Épictète, mais de temps à autre, il peut y avoir un excès de sagesse qui fait qu'on n'est plus dans la sagesse. Et donc, quelque part, il faudrait dire à Épictète, fais attention. Quand il dit, voilà, ne dis pas... on t'a volé quelque chose, ne dis pas on m'a volé quelque chose, dis-le que tu l'as rendu à l'univers. Je ne suis pas d'accord, parce que le vol, c'est le vol. Et à un moment, il faut appeler le vol le vol. Et si on commence à partir de toute chose, à positiver toute chose, rien ne fonctionne.
Oui.
Et donc, à un moment, on t'a volé quelque chose, quoi. On t'a fait du mal. Et on appelle le mal, le vol, et on ne dit pas que finalement, c'est pas grave. Je suis désolé, il y a des moments, c'est grave, et ce qui est encore plus grave, c'est de dire que c'est pas grave.
Voilà.
Vous comprenez ?
Là, vous, oralement, vous faites comme à l'écrit, j'adore.
Voilà.
C'est génial. Bon, alors, Bertrand, vous avez su montrer que face à l'extrême souffrance d'un être, la psychologie était une valeur d'or. Vous avez su le montrer. Mais c'est vrai, hein ? Et vous placez bien la raison et l'humanité avant la sagesse et la vérité, ce qui me plaît, vous le devinez. Vous placez bien la raison et l'humanité avant la sagesse et la vérité.
Oui.
Ça me plaît, vous le devinez. Voilà, je vous laisse continuer. Ai-je tort de penser ainsi ?
Écoutez, ce que je pense, si vous voulez, c'est le travail qui est lié au travail de la sagesse et qui est lié en même temps au travail de l'âme et à ce qu'on peut appeler la psychologie. Ce que j'aime, c'est de revenir à la vie réelle, à la vie corps et âme, à la vie des personnes qui sont devant moi. Et ce qui est intéressant dans la psychologie, c'est son pouvoir de démystification et de désillusion par rapport aux abstractions dans lesquelles nous avons tendance à nous perdre. Et donc, c'est toujours revenir à l'être humain réel et laisser parler l'être humain réel avec son corps, avec son âme et avec en même temps sa chair, corps et âme. C'est ça qui me paraît important. Vous voyez, la psychologie nous aide à retrouver notre âme naturelle et à lui permettre de parler. Nous avons tout en nous, il faut le laisser parler. Et ce qui est intéressant, c'est que la psychologie nous permet de retrouver notre être et de laisser parler notre être. Ça me paraît très, très important. Hein. Ça passe à travers la conscience, ça passe à travers l'inconscient, et ça passe également à travers ce qu'on peut appeler le surconscient, vous voyez, qui permettent à tout ça de s'exprimer.
Qu'est-ce que pour vous le surconscient ? Je le sais en psycho, mais pour vous ça représente quoi ?
Bien, écoutez, c'est la dimension céleste qu'il peut y avoir dans l'âme humaine. Nous avons la conscience ici et maintenant. Nous avons l'inconscient qui est le trésor de toutes les forces de la vie qui porte toute la création en elle. Et puis, nous avons quelque chose qui va au-delà de nous comme un individu et de la création qui se trouve en nous pour aller encore plus loin et plus haut.
En dehors d'être mystique, vous n'êtes pas un peu jungien ?
Mais je suis, j'aime beaucoup Jung.
Moi,
j'ai découvert Jung par Bachelard. Et ce que j'aime beaucoup, c'est son rapport à l'alchimie et à l'animus, l'anima, et aux relations qu'il peut y avoir entre le roi et la reine pour arriver vers la connaissance et l'initiation. Ça, je trouve ça extrêmement fort et intéressant. Vous voyez,
j'aime beaucoup.
Je trouve que Jung, mais il faut bien comprendre la relation qu'il y a entre Jung et Freud, hein. Jung commence chez Freud. Quand Freud analyse l'inconscient grâce au mythe d'Œdipe, il fait rentrer le mythe comme clé pour pouvoir connaître la vie psychique.
Oui.
Et Jung va continuer ce que Freud a commencé à percevoir avec l'importance des mythes pour pouvoir comprendre la psyché. Et c'est là où on découvre quelque chose qui est non pas simplement l'éros humain, mais le cosmos, les forces cosmiques.
Vous voyez ? Oui.
Voilà.
Ah oui, j'aime beaucoup. Je n'aime pas moins Freud. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est athée, Freud, que je l'aime moins.
Ben, ça dépend.
Pour moi, c'est un très grand.
Mais vous avez des choses prodigieuses dans les 5 psychanalyses, la méthodologie que suit Freud. Et surtout, ce qui est passionnant dans la démarche de Freud, c'est le moment où on s'aperçoit qu'il touche juste. C'est-à-dire, dans la manière qu'il a d'analyser et de faire apparaître une cohérence dans la vie psychique et les comportements, en mettant en relation des éléments présents avec des éléments passés, le bien immédiat que ça produit chez celui qui l'écoute ou celle qui l'écoute.
Oui, il est clair, il est précis.
Et tout d'un coup, il y a une efficacité de la parole qui est prodigieuse, c'est très efficace. Vous voyez ?
Ah, j'aime beaucoup Freud.
Et donc, je crois que c'est cette méthodologie. Et ça, c'est l'intérêt de la science. C'est-à-dire, la démarche scientifique est prodigieuse parce qu'elle est faite de probité. Elle décrit ce qu'elle voit. Et en décrivant ce qu'elle voit et ce qu'elle sent et ce qu'elle expérimente, elle arrive à la vérité. Et ça, je trouve ça prodigieux.
C'est très vrai. J'aime autant l'un que l'autre, mais Freud n'a pas pu guérir tout le monde, parce que autant il reconnaissait le refoulement sexuel, mais il ne reconnaissait pas le refoulement de la spiritualité. Il ne pouvait pas soigner cela. Donc c'est un Jung qui pouvait les soigner.
Ben non. Mais alors, il fallait repartir dès le début pour pouvoir reconstruire l'édifice, parce qu'il fallait voir d'où on venait, avec en même temps un héritage chrétien qui avait quand même beaucoup bloqué les moyens de la connaissance, bien qu'il y ait une très profonde psychologie chrétienne et chez les grands auteurs chrétiens, il fallait reprendre tout ça pour le reconstruire, le rebâtir.
Ouais. Vous avez vu comme Nietzsche a su, comme Freud a su rendre grâce à Nietzsche de toutes les idées qu'il lui a données.
Et surtout, il disait, Freud a eu cette parole remarquable en disant là où je suis passé, un poète est déjà passé avant moi.
Oui.
Et donc, il avait parfaitement compris que la poésie était la première des psychanalyses et la première des explorations de l'inconscient. Vous voyez ? Et ça, c'est magnifique.
Oui, c'est magnifique.
Ce qu'il a vu, c'est la force de vie qui se trouve en nous, caractérisée par l'éros et qui est refoulée et qui revient parfois de manière explosive. Ça, c'est très, très fort. C'est très intelligent, vous voyez.
Mais dans la libido, il avait mis tous les instincts. Hein. Freud, il n'a pas mis que le sexe, hein. Il a mis tous les instincts.
Non, il y avait...
Il y avait tous les instincts. L'agressivité, tous les instincts.
Il y avait effectivement...
Mais c'est un génie, Freud.
Oui.
C'est un génie. Et Jung aussi, bon, on ne peut pas comparer. Allez. On ne peut pas. Les deux avaient du talent.
Ce sont des grands aventuriers de la pensée.
Bon, voilà, c'est très bien dit. Deux grands aventuriers de la pensée. Oui, bien sûr. Alors, je continue. Oui, vous avez montré admirablement le bienfait de la colère juste. Alors, vous en êtes référé au Christ, capable de se mettre en colère, mais vous avez été loin. Et vous écrivez « Sa colère a été sage ». Alors, je vous dis bravo de rectifier les choses. Parce que la colère est toujours mise en rivale de la sérénité. Et vous, vous cassez cette certitude. Vous avez écrit « Il y a des colères justes pleines d'amour et des sérénités pleines de froideur et d'indifférence ». Alors, je vous dis bravo Bertrand, je vous laisse continuer.
Ben oui, je crois que effectivement, nous apercevons que de temps à autre, quand quelqu'un est en colère, c'est la justice qui parle à travers lui. Et il a des bonnes raisons d'être en colère. Et en étant en colère, il n'est pas en colère contre une personne. Il est en colère derrière un principe, derrière des choses fondamentales qui n'ont pas été respectées et qu'il fait respecter. Et donc, c'est ça qui est important, c'est les caractères spirituels qu'il y a. Et vous pouvez dire à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord, « Je suis très en colère contre toi. » Vous voyez, il n'y a pas besoin de hurler et de lui casser la figure.
Non, il n'y a pas besoin de lui casser la figure.
Et parfois, vous dites à quelqu'un, « Je suis très en colère. » Eh bien, vous voyez, mais je suis sûr que les mères de famille disent à un enfant, « Je suis très en colère contre ce que tu as fait. » Et l'enfant sent qu'il est allé trop loin. Et tout d'un coup, il a honte. Et je crois qu'à un moment, il y a des colères sacrées. Vous voyez,
c'était formidable.
En disant le temple,
c'est pas ça dans le livre ici.
Et en disant le temple, c'est le temple. Arrêtez de faire ce que vous faites sur le temple, tu vois. Et ça, c'est la paix qui s'exprime, c'est l'amour qui s'exprime, c'est la vraie sérénité qui s'exprime. Vous voyez.
Oui.
C'est-à-dire cette colère est au-delà du couple, colère, sérénité. C'est banal.
C'est au-delà.
C'est une colère d'un autre type.
Oui, alors là, on va reparler de Saint-Augustin un peu, parce que je vous mets bravo encore d'avoir montré comment Saint-Augustin et d'autres théologiens utilisent la notion de providence. Mmh. On n'a pas parlé de providence. Alors voilà, je vous laisse. Ce Dieu qui envoie des épreuves, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, mais on l'a abordé.
Alors, vous avez deux manières de voir la providence. Vous avez une manière passionnante de voir la providence, c'est ce qui va plus loin. Providéo, je vois en avant... Je vois avant. Et je pense que c'est ce qu'on peut appeler la capacité d'anticipation qui fait partie du génie de la vie. Et donc, il y a une providence qui est inhérente à la vie et il y a une providence également en nous. Nous sentons à l'avance certaines choses et qui nous mettent en garde et qui nous dit attention. Et donc, c'est de cette manière...
Ça me fait peur ce que vous dites. Parce qu'il y a des choses que je sens qui arrivent et d'autres que je sens qui n'arrivent pas. Or, j'ai eu peur pour rien avant.
Mais je vois la providence à travers ce dialogue intérieur que l'on peut avoir avec la force divine en nous et qui arrive à ce paradoxe, c'est qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire et qu'on fait, et il y a des choses qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas. Et donc, je crois qu'à un moment, la vraie providence nous amène à... vivre juste et à faire exactement ce qui est juste. Et vous apercevez que spirituellement, quand vous êtes juste, les choses justes arrivent et il y a un accord entre l'extérieur et l'intérieur. Ensuite, il y a l'autre providence, c'est la providence pour les nuls, c'est-à-dire un Dieu qui est extérieur au monde et qui organise le monde et qui a tout prévu. Donc c'est, si vous voulez, ça fait un peu penser au démon de la place, ou bien encore au dieu horloger, où tout d'un coup, c'est celui qui a tout réglé à l'avance.
Oui, c'est,
alors que moi,
c'est bien ce que vous dites.
Ce que j'aime, c'est l'expérience. Vous parlez de la providence, mais dans l'expérience pour vous. C'est-à-dire, il peut y avoir un moment, vous dites, écoutez, j'ai fait une expérience de la providence. J'ai vu tout d'un coup un accord avec le monde extérieur auquel je ne m'attendais pas. J'ai vu des choses justes se produire en moi auxquelles je n'attendais pas. Et là, j'ai eu le sentiment d'avoir été guidé de l'intérieur par une force
mystérieuse.
Mettez-vous
plus près du micro. Mettez-vous plus près du micro.
Par une force mystérieuse, vous voyez.
Oui.
Et donc, je crois que c'est ça qui est important. C'est cette présence divine en nous qui s'exprime. Et d'une manière subtile. Et vous êtes guidé. Vous voyez
je comprends, c'est subtil ce que vous dites.
Écoutez, quand j'ai passé mon oral de Normal Sup, je sentais qu'il fallait que je m'intéresse à Baudelaire. Et le soir avant, j'apprends le poème des correspondances de Baudelaire.
J'adore.
Et le lendemain, je tire comme sujet de culture générale Baudelaire et donc les fleurs du mal. Et j'ai récité les correspondances. Et donc, je sentais qu'il fallait que j'apprenne ce poème. Voilà. Donc, il y a un accord, vous voyez. De temps à autre, on peut être guidé par « fais ça, tu ne le regretteras pas » ou « ne fais pas ça et tu ne le regretteras pas non plus ».
Tout le monde ne se rend pas compte de cela.
Non.
Mais quand on s'en rend compte, c'est magnifique, hein.
Alors, il y a une chose qui est tout à fait passionnante, c'est de dire qu'il y a ce qu'on peut appeler le grand tout, et c'est une intelligence qui a le sens de l'information simultanée qui passe à travers tous les points de l'univers à un même moment. Et donc, c'est une espèce de surintelligence qui est capable de voir la simultanéité des relations de tout avec tout. Et ça, c'est très fort, cette affaire.
C'est très fort et ça se peut.
Et
parce
ça
que
se
j'ai
peut.
Vu dans le milieu, quelqu'un peut avoir, dans le monde, la même idée en même temps à des endroits différents.
Oui.
Ça arrive.
Mais vous avez, par exemple, alors, sur des créations, le calcul infinitésimal a été trouvé par Leibniz, par Newton, au même moment.
Oui, c'est très étrange.
Et vous arrivez, les grandes découvertes se font souvent au même moment.
Oui.
Vous avez quelque chose qui est très intéressant qui s'est passé, c'est ce que Jaspers appelle le point axial de l'histoire du monde au VIe siècle avant Jésus-Christ, où il y a un éveil de la conscience de soi qui se fait en Chine avec Lao Tzu, avec le Bouddha, en Iran avec Zoroastre, en Israël avec les grands prophètes, en Grèce avec les présocratiques, et tout d'un coup, vous avez un éveil simultané partout.
Oui, je trouve que c'est fou.
Eh oui.
C'est quand même formidable.
Mais
hein.
Qui rejoint à un moment ce qui est dit dans l'Évangile par le Christ, dans l'entretien avec Nicodème, quand il dit que l'esprit est comme le vent, nul ne sait d'où il vient et nul ne sait où il va. Mais pourquoi nul ne sait d'où il vient, nul ne sait où il va? Parce qu'il arrive simultanément de tous les points de l'univers au même moment. Et quand on demande d'où vient le Christ, mais le Christ ne vient pas d'un point particulier, il vient de partout au même moment. Et là, on peut dire, personne n'est en mesure d'imaginer ce que ça peut dire. C'est ce qui est exprimé par la notion de multivers, non pas d'univers, mais de multivers. Ou tout d'un coup, c'est une explosion de vie inimaginable.
Bon, alors, je vais vous dire la vérité, c'est la première fois que j'entends l'expression. Multivers,
voilà.
Première fois.
Mais oui, et vous voyez, c'est pour ça que le Christ dit à Nicodème, mais tu ne sais pas d'où je viens, parce que personne ne peut comprendre d'où je viens, tellement c'est extraordinaire. Et c'est intéressant, puisque c'est ce qui peut dire que le Christ est un événement cosmique pour tous les temps et tous les lieux, et pas simplement Jésus de Nazareth, aussi remarquable soit-il.
Oui, bien sûr, mais c'est la manière dont vous le dites, franchement, c'est très, très lumineux.
Merci.
Et c'est beau, hein. Là, je pourrais dire que c'est un scoop pour ceux qui ne le savent pas. Et moi, je ne savais pas exactement ce que vous avez dit, mais le multivers.
Ah, oui.
Et la manière dont vous parlez du Christ.
Ah oui, c'est très extraordinaire.
Oui, vous nous apportez beaucoup.
Merci.
Sur Radio Courtoisie.
Ben écoutez, c'est vous qui nous apportez beaucoup.
Oui, mais enfin, là... C'est moi qui vous invite parce que franchement j'ai de la chance. Vous nous apportez.
J'ai de la chance d'être invité par vous et d'être à Radio Courtoisie.
Merci Radio Courtoisie.
Merci
aussi. Mais parce que là c'est franchement quand je dis lumineux c'est dans tous les sens du mot.
Ah oui non mais ça explose. C'est pour ça que vous voyez là on touche quelque chose d'important. C'est que ce qui m'intéresse c'est de parler de cette révolution christique inimaginable. Et ce qui est passionnant aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a quelques grands scientifiques qui approchent cette vision des choses. Vous avez cette phrase qui m'a étonné de Bernard d'Espagna qui dit « Les sources de la réalité sont tellement extraordinaires que nous n'avons pas encore les moyens intellectuels de comprendre d'où ça vient. » Et je pense que cette notion de multivers explosive dont parle le Christ à Nicodème au chapitre 3 de l'évangile de Jean, c'est exactement ça.
Ah, vous avez fait le rapprochement tout de suite.
Tout de suite. Et c'est quand même extraordinaire. Il dit, il faut être le baptême de l'eau et de l'esprit. Le baptême de l'eau et de l'esprit est comme le vent. Nul ne sait d'où il vient, nul ne sait d'où il va. Parce qu'il vient simultanément de partout à la fois.
Enfin, je vous promets qu'entre votre culture qui est immense et votre inspiration qui est aussi, ça va loin, hein, Bertrand.
Écoutez, on est là pour ça. Hein.
Oui, mais enfin, remerciez Dieu. Hein.
Et aussi Isabelle.
Alors, vous avez parlé...
Sa servante en ce monde.
Enfin, je l'aime.
Oui.
Je ne suis pas servante, je l'aime. Non, je ne sers pas, j'accompagne.
Oui, c'est ça.
Je l'aime.
Oui, mais vous le servez au noble sens du terme.
Ah ben, je ne peux pas faire autrement. Hein. Je l'aime. Hein.
J'aime beaucoup le service, au volleyball.
Non, mais j'ai compris, je prends comme un compliment ce que vous m'avez dit.
Au volleyball, le service, c'est celui qui va passer la balle et l'autre va pouvoir smasher.
Ah ben, je suis d'accord pour le servir.
Voilà.
Le mot, je ne refuse pas. Hein,
c'est magnifique.
Chaque fois que je peux le servir, je dis oui. Hein.
Oui, bien sûr.
Je l'aime tellement.
Pour qu'il marque.
Ah ben oui. je l'aime. Parfois,
la passe en or.
Il faut que je me calme même parfois. Parce que je l'aime tellement que si quelqu'un est athée, je ne dis rien. Mais si on commençait à le débiner, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, on se fâche. Là, on va se fâcher.
On ne retient plus. Enfin, vous avez parlé du danger de la projection humaine en Dieu, que rien ne vient étayer. Et là encore, c'est formidable.
Eh oui. Et je crois que c'est très intelligent de dire attention quand vous parlez de Dieu. Parce que, regardez, je m'aperçois dans les évangiles, ce qui me navre, c'est cette banalisation de la parole divine. Et j'ai le sentiment de dire, mais fais quand même attention, c'est extraordinaire les paroles qui sont dites. Ne les ramenez pas à la vie quotidienne, à vous, à votre problématique ici, aujourd'hui. Bien sûr que les choses sont vivantes ici, maintenant, très concrètement pour moi. Mais attention, elles vont très loin. Et donner de l'extension à ce qui est dit. Et c'est pour ça que quand je prends les évangiles et tout, dans chaque mot, je vois une bibliothèque. Et je me dis, attention, les choses vont très, très loin. Vous voyez,
dans la méthodologie. Pourquoi vous voyez une bibliothèque dans chaque mot ?
Ben parce que il y a beaucoup de choses à dire. Vous
ah
voyez,
oui, hein, d'accord, c'est dans
et
ce sens.
Il y a des choses infinies. Vous
bien
voyez,
sûr.
Vous avez des paroles qui sont vertigineuses. Vous voyez, c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que personne n'a encore lu l'Évangile et on n'a pas fini de le lire parce que ce texte est totalement ouvert et totalement incroyable. Et personne n'a jamais vu un texte comme ça.
Alors bravo Bertrand d'avoir écrit que la théologie issue souvent du langage personnel fait de Dieu un fou. Oui, mais vous avez osé prononcer le mot, hein.
Mais oui, vous avez, je ne sais plus, il y avait un écrivain dont le nom m'échappe, avait écrit quelque chose sur le Dieu comme un grand pervers, vous voyez, et donc il remettait en question toute une tradition qui faisait faire à Dieu tout le mal qui pouvait exister sur Terre. Et c'est vrai que c'est une forme de folie et de projection. Et il faut se méfier.
Alors,
vous savez, Maurice Sandel disait
«
Ne parlez pas trop de Dieu, vous l'abîmez. »
C'est
donc,
vrai.
Il faut savoir en parler avec modération.
Ben, on en a déjà parlé, ça. Le christianisme a fait beaucoup de mal en voulant expliquer le mal. Vous l'avez dit tout à l'heure.
Hein, oui.
Que le christianisme a fait beaucoup de mal en voulant expliquer le mal. Vous l'avez déjà dit magnifiquement.
Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de catholiques et de chrétiens qui en sont convaincus et qui, tout en étant chrétiens et catholiques, sont capables de percevoir les limites d'un catholicisme et les limites du christianisme. Hein, ça, je pense qu'il y a une grande intelligence chrétienne et catholique.
Oui,
ça,
bien sûr.
Vous savez, c'est dit par Delumeau dans son livre extraordinaire sur le péché et la peur. Il y a un prêtre qui était obligé de calmer les ardeurs d'une de ses ouailles qui se martyrisait parce qu'elle pensait qu'en se martyrisant, elle serait récompensée dans l'au-delà. Et alors, on voit ce paradoxe où cette femme est en train de faire un calcul à propos de sa souffrance avec des comptes d'épicier ou d'apothicaire. Et qui est-ce qui est la freine? C'est le prêtre lui-même qui la freine en lui disant « Mais écoutez, ma fille, calmez-vous, calmez vos ardeurs ecclésiastiques et religieuses. »
Ça frise du masochisme.
Mais oui, alors...
Alors là, vous avez parlé aussi de l'ascète, ça j'ai bien aimé, c'est toujours pareil. Le véritable ascète, s'il est détaché, détaché de tout, y compris du détachement. Bon, oui. La phrase est courte, elle est précise, elle sonne bien. Oui. C'est comme un klaxon vérité que vous faites. Hein.
Et oui.
Parfois, vous faites des klaxons vérité.
Oui.
Bon, je ne sais pas pourquoi ce mot me vient, mais c'est
et surtout,
rien.
À un moment, le détachement, c'est quelque chose qui vous est donné. J'aime bien cette idée de Khalil Gibran qui dit « Souviens-toi que les enfants ne viennent pas de toi, mais à travers toi ». Eh bien, on devrait dire la même chose pour la sagesse, pour le détachement. Souviens-toi que la sagesse ne vient pas de toi, mais à travers toi.
C'est vrai.
Souviens-toi que le détachement ne vient pas de toi, mais à travers toi.
Mmh.
Et là, on le voit très bien. C'est ce qui me navre dans le développement personnel, qui fait certainement beaucoup de bien, parce qu'il y a des gens tout à fait intelligents dedans. Mais c'est cette obsession du moi par des gens qui n'arrêtent pas de surveiller leur moi afin de savoir s'ils sont en train de se détacher du moi. Vous voyez, donc,
oui, je vois, on a un paradoxe.
Et ils sont attachés au détachement du moi.
C'est quand même
un comble. Et ils n'arrêtent pas de vous dire qu'il faut se libérer de l'ego et ils sont obsédés par leur propre moi.
Vous voyez, j'ai oublié dans les compliments que je fais et que je pense profondément, l'humour.
Oui.
Vous faites rire parfois.
Oui, oui, oui.
En vrai, vous avez beaucoup d'humour.
Écoutez, je crois qu'il faut rire et apprendre à rire.
Oui, mais l'humour, c'est rire à froid. Moi, c'est l'humour qui me fait le plus rire de tout. Hein. Les bonnes blagues, je ne ris pas. Hein.
Ah non, mais l'humour est quelque chose
d'extraordinaire. Ça me fait vraiment rire.
Moi, je pense que c'est céleste, c'est génial.
Ah oui.
Ça vient d'ailleurs, l'humour.
Oui. Hein, c'est l'esprit quand même.
Ah, oui,
comme
oui,
Sacha Guitry, c'est l'esprit.
Le Churchill était extrêmement drôle. Hein, il y a eu des traits d'humour, mais hallucinants.
Je connais moins Churchill que Sacha Guitry.
Ouais,
vous dites qu'il se va là.
Il avait dit à une dame, une députée travailliste, et qui lui disait « Monsieur le Premier ministre, vous êtes tellement odieux que si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre thé. » Et lui avait répondu « Et moi, si j'étais votre mari, je boirais le thé. »
Non, c'est génial.
C'est
ça.
Absolument prodigieux.
Non, c'est génial. C'est génial.
C'est une des choses les plus sublimes.
Oh non, c'est formidable.
C'est
hein.
Sublime de dire des choses comme ça.
Non, c'est formidable.
Oui, oui, oui.
Alors.
Et vous en avez une autre de Gaulle et de Massu. De Gaulle va voir Massu, il lui dit « Toujours aussi con, Massu ?» Et il a répondu « Toujours gaulliste, mon général.
» C'est génial aussi.
Mais
hein.
C'est génial, c'est la réponse
c'est génial,
du
c'est
berger
génial.
À la bergère.
C'est génial.
L'arroseur arrosé.
Ah oui. Et Sacha Guitry, je me souviens que d'une, parce que je ne retiens pas tellement ces choses. Sacha Guitry, quand on lui dit « Ça ne vous fait rien de savoir que... » ça ne vous fait rien que votre femme vous ait trompé ?
Oui.
Il répond si, ça me fait. Parce que maintenant, un autre sait ce dont je me contentais. Je me suis des trucs pareils.
Et une jeune actrice lui dit « Maître, je n'ai jamais le trac quand je rentre en scène. » Et il lui avait répondu « Vous verrez mon petit quand vous aurez du talent.
» Ah oui. Ah oui.
C'est prodigieux.
C'est Sacha Guitry, là. Hein.
Ah, c'est prodigieux.
Ah oui, là, c'est prodigieux.
Prodigieux. Oui, oui, oui.
Oh.
Non, non, mais ça, c'est... Et alors, c'est très bien parce qu'on voit qu'il y a une forme d'éternité des paroles humoristiques parce qu'on s'en souvient des générations entières.
Oui.
On se repasse les traits d'humour comme Baudelaire dans Les Phares et qui parle des appels de chasseurs dans les grands bois.
Oh, non, c'est formidable. Alors moi, je vais vous dire, je ne suis pas doué pour raconter les histoires. Vous l'êtes peut-être.
Écoutez, savoir. Il faut se...
Voilà.
Et il faut se mettre en scène, vous voyez, voilà.
Bon, ben écoutez, on va terminer sur ce rire.
Oui.
Sur ce rire. Mm. De toute façon, on est loin d'avoir, si vous êtes toujours d'accord. Hein.
Oui.
On est loin, parce que c'est un voyage qu'on fait là.
La différence entre l'ironie et l'humour. L'ironie consiste à rire des choses, l'humour consiste à rire avec les choses.
Oui. Très bon. Ah ben écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons bientôt nous quitter. Et vous voyez, Donc, on termine l'émission sur une très belle phrase de Bertrand Vergely. Bertrand, je vous remercie beaucoup.
Moi aussi.
Et je vous dis à très bientôt.
Et je dirais vive Isabelle.
Merci Bertrand. Nous allons nous revoir plus d'une fois parce qu'on va rester sur ce livre encore un petit moment. Hein,
très bien.
Si vous le voulez bien.
Très volontiers.
Au revoir et bon mois d'août. Chers auditeurs, chères auditrices, bon mois d'août.
Bon été à toutes et à tous. Bonne fin d'été.
Voilà, sans canicule si possible. Mais ça, nous ne sommes pas Dieu, ni vous ni moi. Et on ne pourra pas l'empêcher. Bon, en tout cas, je vous laisse. Je vous laisse en vous souhaitant un bon été. Avec Jules Berbeco, qu'on n'entend pas assez. Et qui est un immense, immense artiste. Et une personnalité comme je les aime. Comme Alida, et comme d'autres. Voilà. Alors, à vous, Gilbert.
Je ne connais des capitales que les chambres d'hôtel. Ce monde universel, des coulisses et des salles. J'ai choisi de vivre. Je ne connais des gens qui sont assis dans ces fauteuils que leur sourire clair. Rien de plus, rien de moins. Demain, je serai loin. Je ne connais des grandes villes que le souvenir que j'en ai. Ce jour-là, il neigeait à Lille, à Moscou, Nathalie m'aimait. J'ai choisi de vivre. De temps en temps, une folie, il m'arrive un nouvel amour, mais rien ne peut durer toujours. Rosie and John me l'avait dit. J'ai choisi de vivre. Je ne fais que passer. Peu importe les noms, les lieux, ni les couleurs. Je ne fais que passer.
Vous venez d'entendre Lumière de l'espérance dirigée par Isabelle Prêtre, émission préenregistrée le 3 août 2026, diffusée dimanche 6 septembre de midi à 13h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.